Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Avec la situation exceptionnelle que nous traversons, j'ai dû ajuster mon planning pour les 3 mois à venir, certaines lectures prévues en avril n'existant pas en numérique. Qu'à cela ne tienne, j'ai inversé les mois d'avril et de mai, et donc, vous le voyez dans le titre, je vous parle aujourd'hui de mes lectures faites dans le cadre de la rentrée littéraire 2019. Vous aurez la seconde partie de ces lectures fin juin. Au programme aujourd'hui, de la fantasy, de la science-fiction, du steampunk et une uchronie. C'est parti! En premier lieu, je vous présente Voile vers Sarance, de Guy Gavriel Kay. Premier tome de la mosaïque sarantine qui se clôt en 2 livres. Ce n'est donc pas une saga de fantasy de longue haleine, comme il en existe tant. Voile vers Sarance n'est pas une nouveauté, mais il a été réédité par les éditions La Talente en septembre dernier. Alors, de quoi il s'agit ? Guy Gavriel Kay est un auteur connu pour écrire de la fantaisie historique de manière très fine et détaillée. Voile vers Sarance a pour cadre la Constantinople du VIe siècle, capitale de l'Empire romain d'Orient sous le règne de l'empereur Justinien et de l'impératrice Théodora. Justinien est à l'origine de la construction de la basilique Sainte-Sophie et c'est ce bâtiment qui sera central dans le roman. Le héros malgré lui de Voile vers Sarance est Caius Crispus, dit Crispin, mosaïste de son état, second du célèbre mosaïste Martinien de Varennes. Crispin est un homme amer et n'attendant plus rien de la vie, après la mort de sa femme et ses 2 filles de la peste voici quelques années. Un jour, un courrier impérial arrive avec une convocation pour Martinien, lui ordonnant de venir au plus vite à Sarance afin de décorer le tout nouveau sanctuaire de la Sainte Sagesse. Martinien donne sa convocation à son second dans l'espoir que ce voyage lui rende le goût de vivre. Muni d'une convocation au nom d'un autre et d'un message secret de la reine des Antéens, c'est peu sûr de lui que Crispin va entamer ce voyage. Dans la fantaisie de Guy Gavriel Kay, la magie est assez peu présente. Ici, elle se trouve avec des oiseaux mécaniques incarnés par des âmes sous la houlette de l'alchimiste Zoticus. Crispin peut entendre leur voix dans son esprit et ils ont le pouvoir de le mettre en garde en cas de danger. La cour de Sarance est pleine de pièges et le franc-parler du mosaïste pourrait bien lui créer nombre d'ennemis. Ce premier tome est très introductif. Comptez bien 300 pages avant d'entrer dans les jeux de pouvoir. Je ne saurais que trop vous recommander d'attendre la réédition du 2e volume pour avoir l'histoire complète sous la main. Le second roman de fantasy que je vais vous présenter est Rivage de Gauthier Guillemin, également un diptyque. Son 2e volume, La fin des étiages, est déjà disponible. Rivage est sorti en octobre dernier chez Albin Michel Imaginaire. Avec ce roman, on est clairement dans de la fantasy post-apocalyptique. La nature a repris ses droits de force, elle est devenue une entité réactive à l'intrusion de l'homme et n'hésite pas à tuer. Racines, lianes, animaux sauvages, tous se liguent contre les humains, voulant désherber ou couper un arbre. On démarre l'intrigue dans la cité, îlot de béton surpeuplé entouré d'une mer émeraude, tant les arbres sont nombreux. On l'appelle le domaine. Dans cette cité grise de pollution et pleine de bruit, un homme craque et décide de partir, quitter la cité à jamais, s'enfoncer dans le domaine où il en est sûr, la mort l'y attend comme pour tous les autres avant lui. Le voyageur n'aura que cette identité tout au long du récit. Rivage est un roman de fantaisie philosophique, c'est très contemplatif. Il y a bien 2-3 courtes scènes d'action quand les Ondas rencontreront leurs ennemis les Faumoirs. Mais pour le reste, l'histoire est très portée sur la réflexion et l'introspection de notre héros. La relation de l'humain à la nature, comment réussir à vivre en harmonie avec elle, l'alimentation, sa rencontre avec le peuple des Ondins descendant des Tuatha des Dana, qui rêvent de retrouver un jour les rivages qui les ont vus naître. Ce roman est bourré de références avec la mythologie irlandaise ainsi que gréco-romaine, la littérature classique et un soupçon de développement personnel à portée écolo. Passons maintenant à quelques ouvrages de science-fiction. En août dernier paraissait Acadie de Dave Hutchinson chez Le Bélial dans leur collection de novella Une heure lumière. C'est le format parfait à qui veut tester le genre de la science-fiction. Quand on ouvre un dictionnaire, Acadie est le nom utilisé pour une nation sans reconnaissance explicite des autorités. Dans cette novella, la colonie est une petite planète reculée d'un système stellaire isolé. Les gens qui se sont installés ici recherchent la sécurité face aux lois terriennes. John Wayne Faraday est notre héros malgré lui. Dirigeant fantoche qui doit rendre des comptes à la grande scientifique croque-mitaine de la colonie, Isabelle Potter. La colonie a été fondée il y a plusieurs siècles et est en infraction avec les lois bioéthiques terriennes. Quand une sonde provenant de la Terre est détectée dans leur atmosphère, le poste pépouse de président de John, surnommé Duke, devient un peu plus inconfortable. Si la Terre se rend compte des aberrations créées sur la colonie, la peine capitale s'abattra sur eux. Duke et Isabelle Potter lancent l'ordre d'évacuer et il va falloir la jouer fine pour gagner le plus de temps possible. Cette novella nous parle des dérives potentielles de la science. Jusqu'où peut-on jouer avec l'ADN d'une personne? Où sont les limites? Doit-il y en avoir si la personne modifiée est elle-même en demande? Le second livre de science-fiction que je souhaite vous présenter est « Danse aérienne » de Nancy Kress. Paru en grand format en 2017 chez Le Bélial, il est ressorti en poche chez J'ai lu Imaginaire en septembre dernier. Il s'agit d'un recueil de 11 nouvelles, dont 5 novellas, qui a remporté le Grand Prix de l'Imaginaire du meilleur recueil 2018. Je suis encore assez novice dans la science-fiction. Et dès la première novella du recueil, je me retrouve face au fameux paradoxe de Fermi, qui m'indique que je vais tutoyer des textes qui vont flirter avec la hard SF. Mais pas de panique, l'autrice ne nous perd pas en chemin. Alors, le paradoxe de Fermi, qu'est-ce que c'est? Comme toute personne ne connaissant rien aux sciences dures, je me suis tournée vers Internet. Voici ce qu'on nous en dit. Le paradoxe de Fermi est une série de questions sur la possibilité d'une vie et d'une visite extraterrestre exposée par le physicien Enrico Fermi en 1950. Selon lui, des civilisations plus avancées auraient dû apparaître parmi les systèmes planétaires plus âgés et laisser des traces, étant donné que notre Soleil est une des étoiles les plus jeunes de notre galaxie. Le paradoxe de Fermi a été retravaillé, et c'est en 1975 que Michael Hart l'a regroupé en 4 catégories. Peut-être que la probabilité d'apparition d'une civilisation technologiquement avancée est très faible, si bien que la taille de notre univers est nécessaire pour qu'il y ait une chance que cela se produise une fois, mais moins probable deux fois. Peut-être que les extraterrestres existent, mais que la communication pour une raison X ou Y est impossible ou jugée non souhaitable. Peut-être que la vie existe ailleurs, mais n'est pas détectable. Ou peut-être que les extraterrestres existent et sont parmi nous, mais on n'a pas la technologie pour les détecter encore. Dans sa première novella, Le Sauveur, Nancy Kress utilise l'une de ces quatre hypothèses, je vous laisse découvrir laquelle. Au fur et à mesure de ces histoires, l'autrice réfléchit à nos futurs possibles, notre résilience, nos erreurs, la vue courte sur notre avenir comme notre potentiel à nous relever et trouver les solutions pour l'écologie, les liens sociaux, les travers de la science, notre évolution sur Terre comme dans l'espace enfin. Pour les deux derniers romans, je me suis tournée vers d'autres sous-genres de l'imaginaire. L'alchimie de la pierre de Ekaterina Sedia est un roman de steampunk dans son esthétique pleine de rouages et autres machines. L'alchimie de la pierre a été éditée chez Le Bélial en 2017, puis est ressortie en version poche en septembre dernier chez Pocket. On se situe dans une ville de pierre créée par des gargouilles. S'y livre une guerre intestine entre deux partis politiques, les mécaniciens et les alchimistes. Bien que cette ville soit gouvernée par un duc, il faut bien se rendre à l'évidence, ce dirigeant est un fantoche et les mécaniciens sont de loin les plus visibles. Toute la ville résonne du bruit des rouages et des machines mécaniques qui peu à peu rendent les humains inutiles dans leur labeur. Notre héroïne est Matty, qui a la particularité d'être une automate. L'une des rares à avoir obtenu son émancipation vis-à-vis de son créateur et qui exerce le métier d'alchimiste. Cet office lui permet d'attiser l'intérêt des gargouilles qui lui demandent un remède pour vivre et ne plus disparaître peu à peu, transformée en pierre qui devient leur tombeau. La deuxième personne qui l'emploie est une femme riche, Yolanda, qui a de mystérieuses demandes et qui pourrait bien permettre à Matty de s'émanciper totalement de son créateur, Lohari. Ce livre dénonce pas mal de sujets de société. Cette évolution mécanique à tout craint qui induit du chômage et donc de la pauvreté. La question du racisme est également traitée avec la persécution des étrangers suite aux attentats politiques. Le féminisme avec le personnage de Mati qui est en quête de sa liberté et qui veut trouver sa place dans le monde. Et peut-être aussi un soupçon d'intelligence artificielle avec cet automate qui ressemble beaucoup à une femme si on fait abstraction de ses cliquettements. Et qui pourrait peut-être apprendre à éprouver des sentiments à force de nous côtoyer, jetant un trouble sur ce qui sépare l'homme de la machine. Le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui est le premier tome du diptyque La dernière geste, Dans l'ombre de Paris de Morgan of Glencoe, qui est sorti en septembre dernier chez ActuSF dans leur collection Naus. Le deuxième et dernier tome est attendu pour la rentrée prochaine. Ce roman est une uchronie. Ce genre reprend un élément de l'histoire et imagine ce qui se serait passé si tel événement n'avait jamais eu lieu. Ici, c'est la révolution qui n'a pas abouti à la fin de la monarchie en France. Nous sommes en 1995, dans un monde sous la coupe de la triade, qui sont les trois puissances mondiales, le Royaume de France, l'Empire japonais et le Sultanat indien. On apprend l'existence d'un pays rebelle, Kelsia, mais qui sera peut-être développé dans le second volume. Dans le monde de la triade, tout est très binaire. Les riches d'un côté, le peuple de l'autre. Les femmes sont des monnaies d'échange pour créer des alliances entre les familles les plus puissantes et les pays. Bref, la vie monarchique classique, avec le peuple féerique, considéré bien en dessous du peuple humain et traité en animaux dangereux. A contrario, on rencontrera deux autres sociétés imbriquées dans la triade, le Rai d'un côté et la communauté de l'autre. Notre héroïne est la princesse japonaise Yuri, convoquée par son père ambassadeur à Paris. C'est à son arrivée à la gare qu'elle se rend compte qu'elle est attendue et fêtée comme la future dauphine du Royaume de France. Elle est promise au jeune Louis-Philippe Auguste de France, futur Louis XXI. Yuri freine des cas de fer. Elle refuse cette vie et s'enfuit. Elle sera recueillie par la communauté, cachée dans les égouts de Paris et qui va beaucoup la remuer et la questionner avec son fonctionnement. Le système de la communauté est celui de l'anarchie. Plus aucune différence de traitement entre les races, le statut social, le sexe et la sexualité. Ne vous attendez pas à un monde de bisounours non plus. D'ailleurs, on aura aussi une représentation de la façon de rendre justice dans ce genre de société, ce qui était très intéressant. L'autrice Morgan of Glencoe est musicienne. Elle fait de la harpe et cet instrument est très présent dans son roman. D'ailleurs, si vous êtes curieux de son travail, un financement participatif est actuellement en cours sur Ulule pour son premier album solo. Le lien sera dans les détails de l'épisode. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné tout plein d'idées lecture. Chacun de ces livres est disponible en numérique si vous avez une liseuse, sinon ils vous attendront bien sagement en librairie après le déconfinement. Si vous souhaitez plus d'imaginaire sous toutes ses formes, littéraire, cinéma, animé et jeux vidéo, deux podcasts ont vu le jour récemment. Plus que de l'ASF, animé par Lloyd Cherry, et Mana et Plasma, qui est animé par plusieurs blogueurs et youtubeurs. Les liens seront également dans le détail de l'épisode. Je vous retrouve à la fin du mois de mai pour un épisode dédié à un auteur. D'ici là, bonne lecture, salut !